Voici la nuit, l'immense nuit des origines. Et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour. La terre où il viendrait au jour. Première strophe d'un chant de Didier Rimaud. Voici la nuit, l'immense nuit des origines. Elle est curieuse et juste. Cette manière d'enfouir les temps passés, les temps obscurs, dans le mystère de la nuit. C'est une façon naturelle de signifier que nous aspirons à la lumière. Noël sera fêté, comme nous le savons, au solstice d'hiver, quand s'opère le basculement de la nuit la plus longue vers les jours qui vont renaître. Jésus est le soleil levant qui vient nous visiter, chanté par l'Église matin après matin. Avec les mots du Benedictus. Il vient. Adventum, le mot signifie l'avènement, la venue. Le temps de l'Avent, ce sont quelques semaines chaque année pour nous acclimater peu à peu au mystère de Dieu qui vient. C'est trop peu de dire que l'Avent prépare Noël, au sens où il s'agirait seulement de préparer son cœur à accueillir l'enfant Dieu. En même temps qu'on se dispose à accueillir l'enfant Dieu et que l'on s'extasie sur le mystère de l'incarnation, Dieu va prendre chair. Quel mystère! En vérité, notre cœur est fixé plus loin. Il regarde Pâques et l'avènement du règne de Dieu réalisé à Pâques et que nous continuons d'espérer que ton règne vienne. Faut-il rappeler cela pour commencer ? Aussi grand que soit le mystère de l'incarnation et la joie de Noël, leur signification, on pourrait dire leur origine autant que leur destination, est dans le mystère de la résurrection. Tout naît à Pâques, au sens où l'événement de Pâques, c'est-à-dire l'événement de vie, mort et résurrection de Jésus, révèle et réalise le dessein éternel de Dieu. L'histoire, la préhistoire même depuis la nuit des temps, était tendue vers cette lumière-là. Et la lumière de Pâques reflue sur la multitude des siècles jusque dans leur nuit la plus lointaine. Toute la bonté qui pouvait les habiter, ce qui était déjà lumineux dans les siècles obscurs, ce qui en eux avait le goût authentique de la vie, tout cela était puisé déjà à la source du matin de Pâques. Nous savons cela. Et nous savons que cette nuit des temps n'est pas seulement enfouie dans le passé. Elle habite nos cœurs aujourd'hui. Elle habite nos villes. Elle est le fond de notre univers contemporain. l'humanité de toute génération, et non seulement l'humanité, mais la création tout entière, est en train d'opérer le lent passage, la longue traversée, toute tendue vers la vie. Saint Paul l'a dit, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. À l'heure qu'il est, partout où la nature s'embellit, partout où la vie se cherche, partout où un cœur humain s'efforce de s'humaniser, le Christ ressuscité est occupé à se faire proche. Il frappe à la porte, il visite en silence, il console et affermit, il corrige et encourage. Son esprit souffle sur nos vies. Rappelons-nous le souffle du ressuscité en Jean 20, 22. Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Formidable et discrète puissance de vie, très fragile, suspendue à la bonté du cœur de l'homme qui voudra peut-être se faire accueillant. Cette formidable et discrète puissance vient de la croix victorieuse. De plusieurs façons, je redirai cela. Et quoi que je dise, au fil des 4 semaines de l'Avent, porté par cet hymne de Didier Rimaud, « Voici la nuit », nous ne nous éloignerons jamais de cette vérité essentielle de la joie pascale qui reflue sur toute l'histoire et sur tout le mystère. Arrêtons-nous un court instant pour méditer cela. Une première fois, car nous referons l'exercice, nous imaginons l'humanité entière en attente de salut, l'humanité dans la nuit. Nuit parfois douloureuse, nuit joyeuse, nuit patiente et douce, mais jamais encore la pleine lumière du plein jour. Et nous regardons la croix, nous pensons à la joie de Pâques, et nous nous disons, voici le luminaire, voici d'où vient la lumière. Seigneur, viens nous visiter. Alors nous pouvons commencer à envisager Noël et l'étonnant mystère de l'incarnation. En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau la terre. J'ai imaginé que nous nous laisserions porter par le poème. De près ou de loin, il nous guidera dans un libre parcours biblique. Ainsi commençons-nous par les récits de la création, les fameux 7 jours par lesquels s'ouvrent les Écritures. Nous dévoile-t-il déjà quelque chose du mystère de l'Avent? Doit-on dire que lorsqu'il crée en séparant le sable et l'eau, lorsqu'il distingue la nuit du jour, le sec de l'humide, lorsqu'il crée le temps, puis l'espace, puis un jardin pour l'homme, Dieu préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour? Est-ce qu'en modelant l'homme au début de la nuit des temps, Dieu modelait déjà les traits de son Fils? Peut-être connaissez-vous une sculpture de la cathédrale de Chartres qui suggère cela dans la pierre. Dans les voussures du portail nord, en levant bien haut la tête, on finit par dénicher cette fameuse image. Dans un geste plein de tendresse, Dieu modèle le corps et le visage d'Adam. Or, le Créateur reproduit en Adam son propre visage, qui se trouve être celui de Jésus. C'est une façon de dire que Dieu fit l'homme à son image, mais cela signifie aussi que l'image de Dieu, celle qui s'esquisse sur le portrait d'Adam, sur le portrait de chacun de nous, est en définitive le Christ. Lorsqu'il pétrit la glaise du sol pour créer l'homme, Dieu pétrit déjà le corps de son Fils. Il a déjà en vue l'homme accompli que sera son Fils. Et pour tout dire, mais ne disons pas tout aujourd'hui, il n'envisage pas seulement le corps de chair de son Fils, mais son accomplissement dans la gloire, le corps de gloire de Jésus. Dès l'instant où commence l'œuvre de création, la croix glorieuse de Jésus s'annonce. Dieu commence le long travail d'une rencontre à venir, qui s'accomplira pleinement dans la gloire finale, celle qui éclate au matin de Pâques et qui se révélera au dernier jour. Il existe chez saint Paul un très beau texte qui exprime cela. C'est une hymne de l'Église naissante, l'une des toutes premières hymnes de la prière liturgique de l'Église, sans doute enchâssée dans l'épître aux Éphésiens de saint Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être. Comprenez, il désire de toute éternité que nous devenions, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Il nous dévoile ainsi en Jésus le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Retournez à ce texte, ce début de l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, l'un des textes que nous devrions apprendre par cœur. Les mots sont formels. Dès avant la fondation du monde, Dieu pense, désire, projette toutes choses dans le Christ. Et ce qu'il pense et désire, c'est que nous soyons saints et fils. Or, notre sainteté, notre filialité, ce seront celles du Christ. Dans le Christ, par le Christ, cela revient 4 fois en 8 lignes. Quand il crée le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, Dieu regarde chacun de nos visages en tâchant d'y voir celui de son Fils. Et cela s'appelle, le mot est planté au centre de l'épître de saint Paul, cela s'appelle l'amour. Arrêtons-nous un instant pour méditer cela. Chaque homme, chaque femme, chaque humain sur cette terre, Dieu le façonne en tâchant d'y reconnaître le visage de son Fils. Chacun de nous, Dieu le désire comme son Fils. Il voudrait y modeler peu à peu les traits de son bien-aimé, le Christ. Quel travail! Jusqu'où Dieu se condamne-t-il à aimer s'il doit accompagner chacun de nous dans un amour inlassable, chacun, selon son histoire et sa liberté. Et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine. Ce long travail. Dieu qui pétrit peu à peu une humanité qui lui ressemble et qui porte les traits de son Fils en gloire, les auteurs de la Bible l'ont joliment esquissé et d'une certaine façon récapitulé au tout début de la Genèse, dans les deux récits des sept jours, chapitre 1er, et d'Adam et Ève, chapitre 2 et 3. Ces récits sont tellement précieux que la tradition les a qualifiés de proto-évangiles. Une sorte d'évangile par anticipation. Ils sont comme un avant-goût de la bonne nouvelle évangélique, déjà lisible sur le seuil des Écritures. Nous savons que ces récits ne sont pas la description mythique d'un commencement historique, mais plutôt l'image poétique de notre monde d'aujourd'hui, où Dieu travaille dans un effort éternel à nous faire sortir peu à peu du chaos originel. Dieu travaille dans un effort éternel à nous faire sortir peu à peu du chaos originel. L'homme qui naît, Adam le terreux, c'est nous. Moi, nous tous ensemble, dans notre devoir commun de devenir l'humanité une, en progressant chacun dans sa propre humanité. En apparence, le récit ne raconte pas Dieu qui vient. C'est Adam, l'humain, qu'il s'agit de faire advenir. Et d'une certaine façon, la Bible tout entière raconte la lente émergence de l'humanité à elle-même. Mais l'humanité naît précisément en s'ouvrant à Dieu, dans la mesure même où elle se laisse travailler peu à peu, modelé par lui. À travers bien des épreuves et des folies, l'humanité grandit, s'embellit, s'unifie progressivement, pourvu qu'il en soit ainsi. Et du même coup, elle s'efface, elle se fait plus humble jusqu'au jour. Vienne ce jour où elle s'épanouira pleinement en laissant toute place à Dieu. Et ce jour-là, Dieu sera tout en tous. Dieu aura achevé son long avènement, son patient et doux approchement. Et il donnera, lui, Dieu, il donnera toute place à l'homme. L'homme enfin sera né à lui-même. Je propose que nous nous laissions pétrir, modeler, par quelques touches du récit de la Genèse. Laissons le texte nous humaniser un peu. En nous laissant labourer par les Écritures, c'est un magnifique chantier pour une vie entière, nous ouvrons la voie au Christ qui s'annonce. Nous rendons notre humanité plus habitable pour l'accueillir. Et au matin de Noël, nous serons émerveillés de lui trouver les traits d'une telle ressemblance à lui qui est Dieu né de Dieu. Alors bien sûr, je ne peux que esquisser, parmi les nombreuses voies d'humanisation, tous les chemins pour une naissance qui s'ouvrent dans les récits de la Genèse, j'en choisis seulement deux. La grâce de la rencontre. Et le chemin de la douceur. La grâce de la rencontre. Je souhaite juste vous faire entendre, combien de fois ai-je fait entendre à des étudiants, combien de fois, le cri de naissance de l'humanité. Les premiers mots articulés par l'homme dans la Bible. La Bible n'allait pas manquer les premiers mots de l'homme. Ils sont portés par tout son souffle, ils traduisent forcément son premier désir et sa première nécessité. Les premiers mots articulés de l'homme dans la Bible. Pour le coup, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, elle s'appellera Isha femme, car elle fut tirée de Ish l'homme, celle-ci. Écoutons exactement ces mots tels qu'ils s'articulent. L'homme s'émerveille devant cet autre tellement, tellement pareil, tellement pareil. L'os de mes os, la chair de ma chair est pourtant différent. Elle s'appellera Isha, femme, car elle fut tirée de Ish, l'homme. Et voici l'humanité partie pour l'aventure de la rencontre avec cet autre qui est toujours tellement pareil et pourtant différent. Réussir la rencontre, c'est proprement être à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image il le créa, homme et femme il les créa. De toutes les formes d'altérité, la sexualité est symboliquement la plus forte, celle que nous aurons dans la peau. Mais inutile de dire que derrière cette rencontre-là de l'homme et de la femme se dessinent toutes les autres formes de rencontres difficiles et heureuses. Nous savons quel effet aura sur l'homme la faute originelle, cédant à la voix du serpent, à cette petite voix serpentine qui lui susurre que non, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas fiable. Adam et Ève choisissent de dévorer la vie, de mettre la main sur elle pour la prendre de force, moyennant quoi ils se firent des pagnes. Ils ne pourront plus regarder en face le mystère de l'altérité joyeuse. Sous toutes ses formes, la rencontre humaine sera désormais difficile, laborieuse. Elle est blessée par le péché. Et dans la foulée, toute fécondité sera ardue. Lancer un enfant dans la vie, comme c'est difficile. Vivre du fruit de son labeur, comme cela résiste. Tout est blessé, et le fond de cette blessure est dans une défiance vis-à-vis de Dieu. Je dessine les choses un peu vite, mais je vois là une grâce d'avant. Et singulièrement pour l'Avent 2015. Demandez à Dieu qu'il vienne nous réapprendre le cri de joie originaire, le bonheur qu'il y a à vivre ensemble dans un monde complexe, multiple et mélangé. Il y a 1000 terrains d'humanité pour cet enjeu concret. L'actualité y ajoute cette année une illustration proprement biblique. Ces cohortes d'exilés, ces marcheurs, qui pour des raisons diverses et mélangées viennent à notre rencontre. L'affaire est complexe, elle traduit un grave désordre. Il faudra beaucoup d'intelligence et de cœur pour que cela n'engendre pas une extension du désordre, mais prenne peut-être quelques traits d'une... Et si cela prenait quelques traits d'une bénédiction ? Il n'empêche, nous aurions mauvais jeu d'oublier que Jésus est né hors de chez lui, que ses parents furent refoulés à l'auberge, et qu'aussitôt né, il faudra l'évacuer vers l'Égypte pour raisons politiques. Les grâces de l'avant nous attendent sur des terrains très concrets. Méditons un instant, nous présentons à Dieu l'infinie complexité du monde, où la communion constitue un enjeu tellement difficile à tous les échelons, en couple, en famille, en amitié, dans l'Église, au sein de l'Église, entre les religions, entre les familles politiques, entre les nations. Seigneur, réapprends-nous, viens nous réapprendre le cri de joie de l'humanité heureuse. Et deuxième chemin d'humanisation, un chemin de douceur. particulièrement significatif lui aussi pour cette année. Les premières pages bibliques nous invitent à exercer vis-à-vis de la création une maîtrise dans la douceur. Et là encore, quel chantier! Et quelle grâce d'accueillir à nos portes ces jours-ci toutes les nations qui, tant bien que mal, prennent la mesure peu à peu de l'ampleur de la tâche. La maîtrise, c'est le dominer la terre et soumettez-la. Dieu nous donne effectivement une maîtrise sur le monde comme un jardin qu'il faut garder et cultiver. Mais de quel type de domination s'agit-il? Elle doit être naturellement à l'image de celle de Dieu. Or, l'avez-vous remarqué, dès l'ouverture de la Genèse, Dieu est posé du côté de la douceur et du respect. D'emblée, sa toute-puissance se limite elle-même. C'est particulièrement net avec le repos du septième jour, quand Dieu met un terme à son action et prend le temps d'admirer et de goûter. Il n'est pas dans la jouissance et l'autosatisfaction, il bénit et sanctifie son œuvre. D'autres indices du récit laissent percevoir que le Dieu biblique sera un Dieu de douceur. Certes, il est posé, il s'impose d'emblée le jeu au commencement. Dieu. Il n'y a pas à tergiverser, Dieu est au début, Dieu sera à la fin. Mais qui est ce Dieu? Un Dieu qui parle. Il ne crée pas comme d'autres dieux mésopotamiens de l'époque, à grands coups de combats cosmiques et de victoires guerrières, il crée par la simplicité fragile de sa parole. Pour exercer sa toute-puissance, Dieu n'aura jamais que des mots. Et d'emblée, il nous fait partenaire d'une écoute. Il s'en remet à nous pour entrer ou non dans le jeu de la vie. Dieu prend de la terre, il l'insuffle de son propre souffle, il nous constitue un jardin peuplé d'une myriade de vivants. Avez-vous remarqué, je l'ai remarqué tout récemment, seulement tout récemment, que tous ces vivants de la terre, les animaux de la terre, Dieu les a créés le même jour que nous, le sixième jour, signe du lien qui nous unit à eux et à la terre. Mais la bénédiction, elle ne fut que pour l'homme. L'homme seul a la bénédiction, signe que sans doute, eux, les vivants de la terre et la création tout entière, ils attendent de profiter de la bénédiction qui est la nôtre. Voilà une façon peut-être de dire l'enjeu de ce qui se joue actuellement dans nos efforts pour une écologie intégrale. L'enjeu, c'est le monde va-t-il, oui ou non, profiter de la bénédiction que nous avons reçue. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, écrit ceci: « Nous sommes appelés à être des instruments de Dieu, le Père, pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant, et pour qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. » Si Jésus doit naître à Noël, nous lui souhaitons une terre heureuse et habitable. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter la Vierge Marie qui porte l'enfant à naître. Chantons ensemble la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous souhaite une belle journée et un bon avant.